Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Retour sur les grands procès et faits divers qui ont marqué nos départements avec notre série Les grandes affaires criminelles. C'est un podcast Le Dauphiné Libéré.
Figure historique de l'émission Faites entrer l'accusé, Christophe Ondelat tente de décrypter ce qui, selon lui, fait qu'un fait divers devient une grande affaire criminelle. Du meurtre au verdict de la cour d'assises, de l'enquête au rôle des médias, le journaliste qui présente tous les jours Ondelat raconte sur Europe 1 revient sur les ressorts de ces histoires qui passionnent les Français. Un reportage de Benoît Bouy.
Qu'est-ce qui fait qu'on aime une affaire criminelle ?
Moi d'abord, je pense qu'il y a une grosse part de hasard. C'est un truc qu'on n'a jamais vraiment su expliquer. Enfin, on avait des explications à un moment donné qui étaient par exemple que l'été, il y avait un déficit d'actualité et que donc la moindre affaire criminelle qui survenait pendant l'été, tout d'un coup, prenait une place hypertrophiée qu'elle n'aurait pas eu à la rentrée de septembre ou en octobre, ou novembre, ou décembre, etc. Donc ça, c'est vrai que ça a été longtemps une explication. Mais ça n'explique pas, par exemple, l'espèce de passion hystérique pour l'affaire Jonathan Daval. Ça, c'est, pour moi, ça reste un mystère entier. Il y a un côté, probablement, là-dedans, moutonnier. C'est-à-dire, un média s'y intéresse, donc un autre média se dit « je vais pas être à la ramasse, je m'y intéresse aussi ». De ce fait, une espèce de boule de neige qui fait que déjà l'affaire est surtraitée et le procès, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, tous les médias, à un moment donné, se mettent à traiter l'affaire Daval comme si c'était l'affaire Grégory. Mais ça n'a aucun rapport. C'est un crime très ordinaire, celui de Jonathan Daval. Il tue sa femme, bon, voilà. Ouais, c'est pas... Moi, j'en raconte toutes les semaines. Alors on me dit, oui, mais bon, ce qui a intéressé les gens, c'est parce qu'il avait une duplicité, il participe aux recherches, tout ça. Oui, mais enfin, dans toutes les histoires que je raconte de maris qui ont tué leur femme, à moins qu'on les trouve avec le couteau à la main ou le pistolet à la main, ils essayent toujours de faire croire que c'est quelqu'un d'autre et qu'eux, ils pleurnichent devant les flics ou les gendarmes. Ah, ça n'a rien d'exceptionnel. Il y a un effet moutonnier, ça paraît clair, c'est-à-dire, si un média un peu prescripteur, comme aujourd'hui BFM TV, par exemple, décide de s'intéresser à une histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un correspondant sur place. Ça aussi, ça fait le succès d'une affaire. Si ça se passe à Guéret dans la Creuse, un crime, il n'y a personne à Guéret dans la Creuse. Si, Radio France a une radio. Mais c'est tout. Donc l'affaire, elle a moins de chances d'éclore qu'une affaire qui a lieu à Lyon, ou à Grenoble, ou à Marseille, où tous les médias ont des correspondants, et où donc, tout de suite, à la fois, ils peuvent être alertés par le correspondant, et si eux, ils sont alertés par BFM TV, ils peuvent tout de suite demander à leur correspondant de travailler tout de suite. Quand même très très mystérieux, non ? La meilleure affaire ne fait entrer l'accusé, meilleure audience, 4 800 000 téléspectateurs. C'est considérable, considérable. Concerne une affaire qui n'avait pas fait une ligne dans la Nouvelle République à Orléans. J'ai pas la réponse à la question. Alors après, qu'est-ce qui fait que un public rentre en empathie avec une affaire criminelle ? Là aussi, j'ai un peu de mal à répondre. Il y a le côté concernant, c'est-à-dire l'identification à cette idée qu'est-ce que ça peut m'arriver d'être victime d'un crime comme ça. Alors ça fonctionne avec tous les crimes intimes, le mari qui tue sa femme qui tue le mari, les crimes en famille. Mais il y a aussi l'appétence d'un certain nombre de gens pour les meurtres de psychopathes. C'est un truc que je partage pas du tout, moi. Je préfère une affaire dans laquelle le papa tue maman ou maman tue papa, où ils s'organisent la mère plus le fils à tuer le père, etc., que un psychopathe qui... L'arde de coups de couteau, successivement, 4 femmes en 1 an. Ça, je raconte, hein. Mais je trouve que c'est moins intéressant, puisque on n'est plus dans le domaine de la raison, on est dans le domaine de la semi-folie. De gens qui ont comme ça des espèces de d'épanchements qui les font tuer. C'est beaucoup plus intéressant de travailler sur les crimes commis par des gens ordinaires, qui nous ressemble, mais je sais qu'il y a une très très forte appétence pour les tueurs en série, les psychopathes. Et moi, j'ai longtemps cru que c'était une toute petite minorité. En vérité, non. Mais les faits entrer l'accusé, il faisait 2, 3, 4, 5 millions de vues sur YouTube. De gens qui les voyaient, qui les revoyaient, qui les revoyaient. Et moi, dans mon programme On de la raconte, tous les jours, je rencontre 10 personnes qui me disent qu'ils s'endorment. Il y a un mec tout à l'heure, il me dit, il y avait les affaires criminelles, hein, pas avec les autres. Hein. Les histoires de portraits, de biographies, ça m'intéresse pas. Mais les affaires criminelles, ah, je m'endors avec ça. Alors ça, c'est un truc, bon, j'entends que ça existe. Hein. J'ai pas de jugement sur les gens. Mais ça me surprend, enfin, moi, ça me viendrait pas à l'idée d'écouter une affaire criminelle pour m'endormir.
Sur les dernières affaires importantes d'Aval, pour Maëlys, Le Landais, pour Arthur Noyer, l'affaire du pont de Ligonnès, il y a un point commun, c'est qu'il y a une disparition avant qu'on identifie un crime.
C'est mon fardeau, toutes les affaires criminelles commencent par une disparition. Et donc quand je les raconte, je dois toujours commencer par dire que Tartampion a disparu, que sa femme est inquiète, que son père est inquiète, que sa mère est inquiète, que son tonton est inquiet, enfin voilà. Pour moi, non. Alors après les disparitions d'enfants, c'est pas pareil. D'abord parce que ça donne souvent lieu aujourd'hui à des alertes enlèvement, mais les disparitions ordinaires, toutes les affaires criminelles quasiment commencent comme ça. Et enfin, tous ceux qui prennent la peine d'aller dissimuler le cadavre, parce qu'évidemment, quelqu'un qui tue et puis qui appelle les gendarmes et qui dit j'ai tué, bon, voilà. Mais ça commence toujours comme ça. Moi, c'est mon calvaire, parce que c'est très répétitif dans le monde narratif. Donc non, je crois pas. Dans Le Landais, quels sont les ingrédients? Le décor, un mariage, une petite fille. Donc c'est sûr que le sort des enfants disparu, parce qu'en fait, quand un enfant si petit a disparu, contrairement aux adultes, on ne peut pas imaginer, un, que ça soit une fille, deux, qu'elle soit encore vivante. En vérité, dès le début de l'histoire, une enfant de 7, 8, 9, 10 ans qui a disparu, on sait qu'elle est morte. Et donc, qu'on a affaire à un meurtrier. Alors qu'un adulte, non seulement les pouvoirs publics considèrent, enfin les gendarmes, les flics, comme il a le droit de disparaître, il s'écoule toujours beaucoup plus de temps. Et puis un adulte, on peut envisager qu'il ait voulu changer de vie, il y en a, qu'il soit parti du jour au lendemain, il y en a, ou qu'il soit allé se suicider dans un coin. On le retrouvera pas tout de suite, il y en a. Une petite fille, c'est particulier. Dans l'affaire d'Aval, ce qui a pu accrocher, c'était la joggeuse, qui était, à une époque, il y a eu des joggeuses qui ont été assassinées comme ça. C'est différent avec Le Landais. Parce que là, on comprend pas, on comprend pas quel est l'intérêt de cet homme à tuer cette gamine. En gros, ce qu'on appelle les grandes affaires criminelles, ce sont des affaires de tueurs en série, ou de gens qui ont commis plusieurs crimes. Un type qui en a commis qu'un, c'est moins intéressant qu'un type qui en a commis plusieurs. Donc par exemple, l'affaire Simone Weber, qui est une vieille histoire, mais qui est connue de tout le monde, ça devient intéressant à partir du moment où on l'accuse de deux crimes, parce que là on se dit, avec sa tête, ses yeux bleus, là, quand on est tueur à la meuleuse à béton, qu'elle est découpée à la meuleuse à béton, c'est déjà, ça rajoute. Et qu'elle en ait tué deux, puisqu'elle est accusée de deux meurtres, elle est condamnée que pour un. Ça, voilà, une grande affaire criminelle, pour moi, c'est une affaire dans laquelle il y a plusieurs meurtres. Après Grégory, enfin, voilà, j'ai peur qu'il n'y ait pas de règles. J'ai peur qu'il n'y ait pas de règles sur ce que c'est qu'une grande affaire criminelle. Parce que moi, j'ai tellement raconté d'histoires criminelles passionnantes qui n'ont aucun écho au moment de où elles sont survenues. Plus ça va, moins je suis capable de répondre à cette question. Voilà. Depuis l'affaire d'Aval, je suis à peu près convaincu qu'il n'y a pas de règles, quoi, que c'est la roulette. Tout d'un coup, tout le monde s'empare d'une affaire et on ne sait pas bien pourquoi. Donc moi, pour moi, une grande affaire criminelle, c'est d'abord, ce qui fait une grande affaire criminelle, c'est le temps. Quand il faut 4 ans, 5 ans découvrir un assassin, c'est une grande affaire criminelle. Quand il faut 15 jours, c'est une petite affaire criminelle. C'est la nature de l'enquête, la nature des pistes suivies, les fausses pistes, les moments où on croit que c'est un tel, le moment où on place un tel en garde à vue parce qu'on est sûr que c'est lui, le moment où on écoute un tel et puis ça donne rien. Puis, voilà. Et puis on en revient quelquefois au premier qu'on avait écarté. Voilà. Moi, pour moi, une grande affaire criminelle, c'est quand, 15 ans après, on la résout par l'ADN, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas l'ADN. Ça, pour moi, c'est ça, une grande affaire criminelle. Maintenant, chacun a sa définition d'une grande affaire criminelle. Je ne suis pas sûr que ma définition soit universelle.
Les grandes affaires criminelles font-elles des grands procès?
Ah, non. Ça aussi. Il y a des très grands procès dans des affaires très simples. et des affaires complexes et médiatisées dans lesquelles les procès sont misérables. Un grand procès, bon, ça dépend beaucoup des avocats. Donc pendant des décennies, un grand procès, ça a été un procès avec Dupont-Moretti. Déjà, on savait que puisque Dupont était là, ça serait un grand procès parce que c'est un avocat qui n'a pas son pareil pour interroger les victimes, interroger les témoins, interroger les experts, les secouer comme des premiers. Et c'est ça qui fait un grand procès. C'est le moment où des gens... Là, j'ai raconté une histoire là, que j'ai enregistrée aujourd'hui, dans laquelle Dupont-Moretti reçoit un expert psychiatre. C'est une histoire d'inceste. Le psychiatre lui dit, il n'y a pas pire crime que l'inceste. Et Dupont-Moretti l'arrête, lui dit, vous pouvez expliciter ça, parce que la victime dit qu'elle n'a pas souffert de l'inceste de son père, et qu'elle était amoureuse de son père. Donc, explicitez votre théorie, parce que... Et lui, il lui répond, ah mais moi, j'ai fait mon expertise il y a 10 ans, je n'étais pas au courant qu'elle était d'accord. Et il rajoute, alors, il y a peut-être des incestes heureux. Et là, Dupont-Moretti lui dit, répétez bien fort que les jurés vous entendent. Et le mec, il répète bien fort, il y a peut-être des incestes heureux. C'est ça, un grand procès. Et donc là, tu vois un avocat qui vient de marquer un point, quoi. Ce match, 15-0, c'est déjà... bien parti pour gagner le jeu, quoi. Donc moi, c'est ça que j'appelle un grand procès. Après, un grand procès, c'est quand quelqu'un qui a nié toute l'enquête avoue à l'audience. Ça, mais c'est souvent avec l'aide de son avocat. Donc pour moi, un grand procès, c'est un procès avec de grands avocats. Parce qu'on voit tellement de mauvais avocats, de gens tellement mal défendus devant les assises. Parce qu'ils sont pas capables d'amener leurs clients à dire la vérité. Ils s'arc-boutent sur... une défense improbable, quelque chose d'indéfendable. Donc, on comprend qu'ils font leur métier, mais en vérité, ils ne changent pas le cours de l'histoire. Ils savent d'entrée que leur client sera condamné, ils rament pour le défendre. Voilà. Quand les avocats sont brillants, peuvent amener leurs clients à évoluer, quand ça fait un grand procès. Voilà. Ça tient aussi au bout, à mon sens, à la personnalité du président. Parce qu'il y a des présidents, on voit qu'ils sont... Ils s'endorment pendant les audiences. Puis il y en a d'autres qui connaissent le dossier par cœur, qui voient où ça coince, qui relancent beaucoup les témoins sur des points, etc. Voilà. Donc qualité du président, qualité des avocats.
Est-ce que vous estimez que les Français sont suffisamment, on va dire, formés ou informés sur le système judiciaire, sur sa finesse et ses spécificités ?
La réponse est non. Non, les Français sont au courant de rien, et j'ajouterai un codicille. Non, les journalistes, la plupart, ne sont au courant de rien. Hormis les journalistes qui traitent la matière judiciaire et criminelle. Ceux-là sont au courant des modalités. Mais les journalistes et les présentateurs, personne ne sait. C'est assez incroyable de voir qu'il y a énormément de journalistes généralistes qui n'ont jamais assisté à un procès d'assises de leur vie. Et donc, ils ne savent pas comment ça marche. Et qui connaissent pas une procédure. Qui sont incapables de remettre le procureur à sa place, le juge d'instruction à sa place, les gendarmes à leur place, les policiers à leur place. On trouve des récits criminels à la télévision aujourd'hui, dans lesquels n'apparaissent ni le juge d'instruction, ni le procureur de la République. Comme si, où on ne met en scène que les gendarmes et les flics. Comme on faisait autrefois dans Maigret, quoi. Ou dans Colombo. Mais c'est méconnaître l'enquête judiciaire. Donc, non. Voilà. Les Français sont totalement ignorants. On peut dire que c'est parce qu'on leur a pas expliqué, et on peut dire aussi que c'est parce qu'ils s'y sont pas intéressés, parce que les sessions d'assises sont ouvertes. N'importe qui peut aller s'asseoir dans un coin d'une salle d'audience et assister à un procès qui fait en moyenne 3 jours, 4 jours, 5 jours maximum. Après, il y a quelques procès qui font 15 jours, 3 semaines, mais enfin bon, 3 jours, 5 jours, assister, voir. Quand on va dans des salles d'assises, hormis quelques très, très grandes histoires qui ont une notoriété, le reste, il n'y a personne dans la salle. Il n'y a personne sur les bancs de la presse et il n'y a personne dans la salle. Ça se passe quasiment sans public. Il y a la famille, le soutien de la famille, les proches, les voisins, quelquefois, quand ça s'est passé dans le village. Mais des gens qui viennent pour voir et comprendre, des scolaires, par exemple. L'entrée des assises n'est pas interdite aux mineurs. Et des profs pourraient amener des demi-classes, peut-être pas 30 élèves d'un coup, mais des demi-classes assister au procès d'assises au moins une journée. Non, ils sont au courant de rien. Et quant à la procédure, non, voilà, il y a très peu de gens qui sont au courant. Et même moi, qui connais bien le système, mais comme je suis moi plus dans le récit judiciaire, d'ailleurs, que dans l'enquête de police, des fois... Je peux commettre des erreurs. C'est quand même complexe, à leur décharge. À décharge des gens, c'est quand même très complexe, la procédure... pénal en France. Alors, le fait de raconter des histoires m'amène à n'en raconter, sauf cas exceptionnel, il y en a une ou deux qui ont, mais sauf cas exceptionnel, que des histoires dont on connaît la fin. Parce qu'une histoire dont on ne connaît pas la fin, pour moi, ce n'est pas une histoire. C'est-à-dire, une histoire, il faut qu'on ait des doutes, il faut qu'on balance pendant toute l'histoire, il faut qu'on ait... Ah, c'est lui ? Ah non, c'est lui. Ah non, c'est lui, puis à la fin, on sait qui c'est. Moi, ça m'amène à ne traiter que les affaires criminelles qui ont une vérité judiciaire, à une ou deux exceptions près. J'ai raconté, par exemple, l'affaire Élodie Kulik, alors même qu'elle n'était pas jugée. En fait, entre l'accusé, on a fait quelques cold cases au début, mais très vite, non. Parce qu'il faut savoir, ça, les gens ne le savent pas, mais quand les histoires ne sont pas jugées, que donc on n'a pas la vérité judiciaire, les seuls interlocuteurs qu'on peut avoir, ce sont des journalistes et des avocats. Mais aucun acteur direct d'une affaire criminelle, c'est-à-dire policier, gendarme, procureur, avocat général, magistrat instructeur, aucun expert, psychiatre, expert en balistique, expert en toxicologie, etc., aucun d'entre eux ne parlera tant que l'affaire n'est pas jugée. Donc quand on raconte une histoire et qu'on se prive de tous ces gens-là qui étaient au contact de l'enquête pour donner la parole à des journalistes qui en fait l'ont suivi de très très loin, d'une certaine manière on est un peu à côté de la plaque. D'où l'intérêt d'attendre que les affaires soient jugées, jugées en appel, et tant qu'à faire, avoir le résultat de la cassation, pour être certain, à ce moment-là, ça délivre tous les acteurs de la rétention à parler, à s'exprimer, à donner leur avis, à raconter. Et donc, moi, je préfère les affaires où on sait, par les flics, les gendarmes, les acteurs directs, ce qui s'est passé, parce qu'eux le racontent. Parce qu'au fond, ce qu'un journaliste va raconter d'une garde à vue, souvent, il n'a pas le procès verbal, il imagine, il sait ce que l'avocat lui a dit, mais le juge d'instruction, le gendarme ou le flic ou le juge qui a interrogé la personne... Elle a quelque chose de plus riche à raconter que même ce que dit le procès-verbal, en vérité. Les procès-verbaux sont toujours très secs, très asséchés. C'est une synthèse d'une pensée qui s'exprime de manière beaucoup plus nuancée. Moi, je préfère avoir un juge d'instruction qui me dit « il était face à moi, il a dit ça, mais moi j'ai répondu ça, et puis il a fait ci, il a fait ça », plutôt qu'avoir un procès-verbal très froid comme on refait passer un avocat sous le manteau, quoi. Donc, moi, je pense qu'une bonne histoire est une affaire jugée, finie, dans laquelle il y a une vérité judiciaire posée. Ce qui permet aussi de se lâcher, en fait, de se lâcher. De pas prendre des précautions sémantiques, de présumer machin. Non, il n'y a pas présumé, condamné, coupable. Meurtrier, assassin. Mais finasserie rend le récit mou, la certitude rend le récit acéré. Moi déjà, je me sens un devoir, depuis toujours, donc depuis plus de 20 ans, c'est considérer que la décision d'une cour d'assises légitime. À partir du moment où une cour d'assises a rendu un verdict, s'il n'y a pas appel, ce verdict est la décision juste. Et tant qu'on n'est pas en mesure de prouver l'inverse, on ferme sa gueule et on ne va pas dire « la cour d'assises s'est trompée ». Voilà. Et ça, moi, on ne trouvera pas un seul accro à cette règle en 20 ans de métier. Parce que on a beau être journaliste, on fait aussi partie d'une société. Et moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'on ne peut pas passer sa vie à critiquer la justice. Elle est imparfaite, mais elle n'est pas si imparfaite que ça. Je ne crois pas. Donc, il est vu fonctionner. Les gens ne se rendent pas compte de l'argent qui est dépensé pour mener des investigations dans une affaire criminelle. Du temps, des cellules de gendarmes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gendarmes qui vont travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, à plein temps, sur une histoire, des juges d'instruction qui vont voir, revoir des reconstitutions, des experts, tout ça coûte une fortune. La justice française, dont on dit, elle manque de moyens, enfin, alors, elle en manque sans doute, mais elle en met, et c'est pas des moyens négligeable. Donc, je suis légitimiste avec le système. Et rien ne m'énerve plus que des gens qui disent « Ah oui, mais à outro, on a acquitté les gens, mais peut-être il y en a qui étaient coupables. » Je leur dis « Va faire un coulot, si tu as la preuve qu'ils sont coupables, qu'il y a quelqu'un de coupable, tu viens avec ta preuve et tu la poses sur la table. Mais si tu n'en as pas, tu ne dis rien. » Moi, je ne dis pas qu'un jour, je ne remettrai pas en question un verdict d'assises, si j'ai la certitude que le cours d'assises s'est trompé. Mais jouer le doute pour jouer le doute, ça se pose de manière très percutante dans l'affaire Omar Haddad. Omar Haddad a été condamné par la cour d'assises pour le meurtre de Guylaine Marchand. Tout un tas de gens, pour des raisons étranges, pensent qu'il était innocent. Le dossier l'accuse quand même bien. C'est-à-dire, il n'est pas condamné parce que les jurés ont mis au doigt mouillé en disant, bon, allez, on va le mettre coupable. Non. Il y a un certain nombre d'éléments dans le dossier qui l'accusent formellement, à commencer par ce panneau, Omar m'a tué, mais pas que. Son incapacité à fournir un emploi du temps, sa présence à des endroits et pas à d'autres, et ce besoin qu'il avait d'argent qui offre un mobile à ce crime. Mais tout un tas de gens qui ne connaissent pas le dossier en détail disent « Ah mais non, Omar Haddad, il est innocent. » Parce que vous comprenez, c'est trop facile de condamner un jardinier marocain alors que c'est quelqu'un d'autre. C'est forcément un riche qui a fait ça. Voilà, ça, je réponds toujours aux gens qui défendent l'innocence de Maradat que j'adorerais qu'il soit innocent. Mais que tant qu'on ne le prouvera pas, eh ben, moi, je ne changerai pas ma position sur Maradat. Il est coupable, il est coupable. Voilà. Et Seznec est coupable, il est coupable. On me montre que Seznec était innocent. Ils ont tous essayé. Ils ont saisi des commissions de révision, etc. Ils n'ont jamais réussi à convaincre. Donc, à un moment donné, il faut être légitimiste avec le système. Je comprends que des gens de la famille proche, toute leur vie, n'avaient pas accepté la culpabilité de quelqu'un qu'ils connaissaient bien, etc. Mais des gens qui sont distancés par rapport au dossier, c'est trop facile d'aller jouer justice pourrie. Mais moi, je suis légitimiste avec le système. Je pense que quand on arrive à un procès d'assises, le système s'est donné tous les moyens d'arriver à la vérité. Tout est posé sur la table. À un moment donné, des jurés font appel à leur intime conviction, qui se nourrit d'un certain nombre d'éléments. On voit des jurés acquittés, des gens que pourtant le dossier accusait beaucoup, mais ils les acquittent parce qu'ils sont honnêtes, ils n'ont pas acquis d'intime conviction qu'ils étaient coupables, conviction, et qu'on ne peut pas condamner sur un sentiment, une impression, etc. Moi, la pédagogie que je fais, c'est celle-là, la première. C'est défendre la décision d'assises. On a une illustration vraiment parfaite dans l'affaire Jacqueline Sauvage. Cette femme est condamnée deux fois par la cour d'assises. Deux fois, des jurés, ayant écouté le rappel des faits, disent « cette femme est coupable, on la condamne ». Et ensuite, derrière, des gens qui sont animés par autre chose, c'est-à-dire l'idée qu'il s'agit encore d'un féminicide, d'une femme martyrisée par un homme, qu'elle tue parce qu'elle va mourir, en gros, que c'est lui ou elle, ce qui n'est pas du tout ce que raconte le dossier d'enquête. Et donc, il mène une campagne qui amène finalement le président de la République à gracier partiellement Jacqueline Sauvage, qui sort de prison. Et tous les journalistes, et ça, tous les journalistes qui mènent cette cabale en faveur de Jacqueline Sauvage, aucun n'a assisté au procès de Jacqueline Sauvage. Aucun. Et le système, ce doute est entretenu par des gens qui ne connaissent ni le dossier, ni le procès, et qui ne rappellent jamais que cette femme a été condamnée deux fois par une cour d'assises. Finalement, une fois, on pourrait dire, ah ben oui, il y a une mauvaise tambouille au niveau des jurés, ils n'ont pas tout compris, c'était, voilà, par une espèce de hasard, les jurés étaient constitués d'un ramassis d'andouilles et d'idiots qui n'ont rien compris à cette histoire et qui ont condamné une femme qui était en état de légitime défense et que donc ce n'est ni un assassinat ni un meurtre. Mais deux cours d'assises successives qui la condamnent. Et j'en veux beaucoup aux politiques de céder à ces pressions. Je ne souhaite pas que Jacqueline Sauvage, ayant tué son mari, qui était un sale type, passe sa vie en prison. C'est pas ça l'histoire. Mais que on ne lui fasse pas faire honnêtement la moitié de la peine à laquelle elle est condamnée, peut-être un peu moins de la moitié, avec les remises de peine. Bon, voilà. Quand on est condamné à Nice, on peut faire que 4. Quand on décide, on va la dispenser de l'exécution d'une peine pour ce qui a été considéré comme un meurtre. Donc, voilà, moi je suis légitimiste. Alors on va me répondre, Patrick Dils. Condamné, recondamné, et finalement innocent. Moi, je réponds, innocent, puisque c'est la dernière décision de justice. Il a eu l'opportunité de se défendre. À un moment donné, on l'a rejugé, et il est innocent. Ok, il est innocent. Rien ne m'excède plus que les gens qui disent quand même, Patrick Dils, avec son grand nez, tout ça, il a forcément tué les gamins. La cour d'assises a dit qu'il était innocent. De quel droit quelqu'un qui ne connaît pas le dossier, qui n'a pas assisté au procès, peut venir dire que Patrick Dils est coupable. Et donc après, Dils était innocent, il n'y avait pas de coupable, et puis maintenant, le coupable, c'est Francis Saul. Vrai, pas vrai? Oui, vrai. Voilà, c'est Francis Saul qui a tué les gamins. C'est comme ça. Tout le monde peut avoir des doutes, mais aller gloser sur les doutes, ça m'exaspère. Et je reconnais que là, je suis plus citoyen, républicain, que journaliste.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.